Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données, ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacun, chacune pour ce temps de culte. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le site Internet et qui sont en communion avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui nous regardent de l'étranger. Bienvenue aussi à tous les paroissiens fidèles et aux personnes de passage qui sont là peut-être pour la première fois. Pour nous accompagner à l'orgue aujourd'hui, bienvenue à Alexandre Korovitch. Prions ensemble. Qui es-tu, douce lumière, qui m'inonde et éclaire la nuit de mon cœur? Tu me guides avec ta main maternelle. Si tu me lâches, je n'avancerai plus, même d'un seul pas. Tu es l'espace qui environne mon être et dans lequel tu te caches. Si tu m'abandonnes, je tombe dans l'abîme du rien où tu m'as appelé à l'être. Tu es plus proche de moi que moi-même, plus intime que mon intime même. Et pourtant, personne ne te touche ni te comprend. Et aucun mot ne peut t'emprisonner, Esprit Saint, éternel amour. Le texte que je viens de partager avec vous était écrit par Edith Stein. Réunissons-nous maintenant dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret inséré au début du psautier français. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Je vous invite à vous lever. Éternel Dieu notre Père, c'est de toi que vient toute vie. Tu es présent dans chaque créature. Tu es caché et présent comme la vie au fond de chaque être. Dieu notre Père, si tu te retires, nous périssons. Si tu retires ton esprit, nous ne sommes plus que des cymbales retentissantes et des coques vides. Si tu te retires, notre vie n'est plus qu'une somme de devoirs, et ça, ce n'est plus vivre. Mais si tu renouvelles ton amour, nous pouvons aimer à nouveau. Si tu envoies ton esprit, nous pouvons te reconnaître en tous nos frères et toutes nos sœurs. Si par le Christ tu es vivant en nous, nous sommes vivants en toi. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Je me réjouirai dans le Seigneur. Je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 36, strophes 1, 2 et 3, psaume 36. Prenez place. Écoutons la volonté de Dieu à notre égard. Dans le livre du prophète Joël, l'Éternel dit : Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, comment t'approcher si je ne t'approche que par moi-même? Si je t'aborde par la rigueur, un autre me racontera ta souplesse. Si je contemple la face de ton amour, un autre reflétera celle de ton exigence. Tu es l'un, mais tu te révèles en plusieurs. Là où nous te mettons en commun, ta présence croît éternelle. Comment te reconnaître ? Si je ne te connais que par moi-même, devant toi, partial et partiel, garde-moi de l'illusion de ma totalité. Vivre en Église, c'est vivre du bonheur d'être complété. Tu es l'immense, et notre foi est trop petite pour te percevoir en entier. Là où nous t'attendons à plusieurs, notre accueil s'élargit, éternel Dieu de la vie. Comment pourrais-je t'aimer si je ne connaissais pas le relais de mes frères et sœurs sur mon chemin de foi? Éternel, viens à notre aide. Amen. Accueillir la grâce renouvelée de Dieu, je vous invite à vous lever. Ainsi parle le Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit, je serai votre Père, vous serez mes fils et mes filles. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Je vous propose de confesser notre foi avec un texte écrit par le pasteur Vincent Hubach. Seigneur Dieu vivant, nous confessons ton nom comme Dieu de la vie, parole vivante, parole libératrice, appel, joie, projet. Par les prophètes et par Jésus-Christ, tu nous montres ce que sont ta fidélité et la grâce qui touche chaque être humain, chaque être vivant ici-bas. Aujourd'hui, comme hier et comme demain, par ton esprit, tu affirmes ta présence dans ce monde, que tu sauves du chaos, et nous te rencontrons dans le partage de ta parole, dans le regard de l'autre, dans les gestes de la vie, dans un morceau de pain rompu et dans l'accueil d'un enfant. Fort dans ta faiblesse, nous savons qu'en Jésus-Christ, tu nous libères de toute peur et que tu permets le face-à-face avec toi. Nous savons que tu nous appelles à une vie d'éternité. En tout cela, nous reconnaissons avec Jean que tu es amour, avec Paul que tu es liberté et avec l'Apocalypse que tu es notre espérance. Amen. gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Prenez place. Aujourd'hui, nous prendrons deux lectures dans le Nouveau Testament. La première, qui se situe dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, les versets 1 à 6. Allons-nous de nouveau nous recommander nous-mêmes? Ou bien avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation pour vous ou de votre part? Notre lettre, c'est vous, lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. De toute évidence, vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons grâce au Christ devant Dieu. Ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions mettre à notre compte. C'est de Dieu que vient notre capacité. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit donne la vie. Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, nous lisons encore ces versets 19 à 22. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté, et en voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Éternel, merci pour ta parole qui nous rejoint ici et maintenant, là où nous en sommes, avec ce que nous sommes. Amen. Dans le recueil « Louanges et prières », je vous invite à prendre maintenant le numéro 400, cantique numéro 400. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever.
Wow.
Prenez place. Prions ensemble. Au commencement de l'évangile, le Baptiste voit le souffle descendre sur l'homme Jésus. Après avoir traversé la mort, ce Jésus transmet à ses disciples le souffle reçu de son Père. Est-ce la fin de l'évangile? La finale du texte, certainement. Mais depuis, le souffle poursuit sa course et se mêle à la parole des hommes. L'homme qui s'essouffle à courir sa vie, qui peine et bute sur l'obstacle, le souffle court, reprend souffle à la parole de l'Évangile. Il se redresse comme né d'un nouveau souffle. Et sa course s'apaise jusqu'à parvenir au but, devenir un avec le Père par son Fils devenu mon frère. Éternel, merci pour ce souffle. Amen. La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Amis, frères et sœurs, ces mots écrits par l'apôtre Paul dans sa seconde lettre à l'église de Corinthe résonnent aujourd'hui à nos oreilles. Ils sont adressés à une église en difficulté, à une jeune église disparate qui cherche sa voie. L'apôtre Paul accompagne autant que faire se peut cette nouvelle communauté composée de membres différents et pluriels. Certains sont d'origine juive, d'autres d'origine grecque, d'autres viennent encore d'horizons plus lointains, car Corinthe, c'est un port, une ville cosmopolite. Alors par quoi toutes ces personnes sont-elles unies malgré leur diversité ? Elles adhèrent tant bien que mal à la parole de Jésus-Christ transmise par le témoignage de l'apôtre Paul et de son équipe missionnaire. Et lorsque Paul écrit ces mots, la lettre tue, mais l'esprit donne la vie, il sait de quoi il parle. Lui qui n'a pas connu Jésus, mais qui a tout de même fait sa rencontre d'une façon percutante sur le chemin de Damas. Lui qui, il y a quelque temps encore, partait en toute bonne conscience et en toute légitimité, attaché à la lettre de la loi de Moïse écrite sur les tables de pierre, persécutait les premiers chrétiens qui osaient suivre ce Jésus-Christ, considéré par ses contemporains comme un blasphémateur. Et il devient, contre toute attente, son témoin, et ce jusqu'au don de sa propre vie, maintenant que la loi du Christ est écrite dans son cœur. La compréhension que Paul fait du message du Christ dans ses lettres est différente de celle qui est dans les quatre évangiles. Comme l'écrit le pasteur Jean Dumas dans son dernier livre, La parole et le souffle, je cite, « La foi de Paul naît d'une révélation foudroyante qu'il fit de la véracité d'un Jésus qu'il n'avait pas connu mais qui s'impose à lui définitivement. » Quand Paul écrit ses lettres, les quatre évangiles tels que nous les connaissons ne sont pas encore rédigés. Ces quatre évangiles se ressemblent tout en ayant chacun leur particularité. Chaque rédacteur de l'évangile ajoute sa petite note personnelle. Et sur les quatre, un évangile se démarque plus particulièrement. L'évangile de Jean présente Jésus de Nazareth sous un tout autre angle qui lui semble plus proche des attentes de ses contemporains, ceux de la troisième génération après la mort de Jésus. Et c'est ainsi que nous recevons le quatrième évangile, celui de Jean. Mais au fond, cela rejoint la rédaction des premiers récits bibliques, le Premier Testament. Les sciences bibliques, dont l'exégèse historico-critique, nous apprennent quantité de détails sur la rédaction des livres du Premier Testament. Les pensées religieuses évoluent. Les notions de Dieu, autrement dit les théologies, varient d'une époque à l'autre, d'un livre à l'autre. Et nous sommes témoins d'une grande variété d'expressions de la foi du peuple hébreu. Nous sommes aussi devant une souplesse d'interprétation. La pluralité est donc une réalité du texte biblique. Dans une autre lettre qu'il adresse aux Galates cette fois-ci, Paul dit que chacun est appelé à la liberté. Nous aimons bien être appelés à la liberté, car cela nous renvoie au message libérateur du Christ. En effet, les évangiles sont ponctués des actes et des paroles de Jésus qui proclament sa propre foi en un Dieu qui rompt les équilibres mortifères, qui déjoue toutes les fatalités qui enferment l'être humain. De cette façon, Jésus irradie la présence de Dieu et sa prédication bouleverse encore et bouleversera encore et toujours, libérant en chacun et chacune de nous une énergie créatrice qui fait de nous des passeurs de la liberté. Mais en même temps, l'apôtre Paul dit que cette liberté qui nous est offerte ne doit pas être utilisée à mauvais escient. Et lorsque nous entendons appeler à la liberté, nous comprenons qu'il n'y a plus cette nécessité de vivre sous la loi de Moïse de manière légaliste, mais que chacun, chacune aura la liberté, mais aussi la responsabilité, deux mots qui sont chers à notre protestantisme, d'interpréter la loi de Moïse en fonction de chaque situation qu'il ou elle rencontrera. Et ce sera cela notre liberté, cette liberté. Vivre la loi non plus à la lettre, mais dans l'esprit, pour reprendre les mots de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Avec le Nouveau Testament, nous apprenons que nous ne sommes plus sous le règne de la loi, mais sous celui de la grâce. Mais vivre selon la grâce de Dieu n'est pas un blanc-seing pour justifier des pensées telles que Je peux faire tout ce qui me plaît, et puisqu'il n'y a plus de contraintes, alors je peux suivre mes sentiments, mes penchants, mes désirs, quels qu'ils soient, là où ils me conduiront. Et c'est là que la parole de l'apôtre Paul me met chacun en garde. Le seul exemple à suivre, c'est celui du Christ, qui n'a de cesse de rappeler sous toutes ses formes que notre seul devoir, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et à cause de cet amour du prochain, alors nous ne pouvons jamais faire n'importe quoi vis-à-vis de l'autre, en particulier tout ce qui pourrait lui faire du mal, ou le spolier, ou le dégrader, ou le réduire à une marchandise, ou encore le tuer. Et Paul dira, encore dans une autre lettre destinée cette fois-ci aux Philippiens, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. » C'est bien à ce service que nous sommes appelés service et non servitude. Pourtant, force est de constater que l'histoire des hommes, comme celle de l'Église, est ponctuée d'épisodes sanglants qui rappellent combien la parole, prise en otage, a servi de prétexte pour tuer. Cela advient sans doute quand certains lecteurs de la Bible se sentent pris de vertige par toute lecture plurielle et se laissent glisser vers un tel respect du texte qu'ils en refusent toute discussion. Pour eux, le véritable auteur de ces textes est Dieu lui-même, pour d'autres ce sera le Saint-Esprit, et il ne faut rien changer aux lettres du texte, en concluant qu'il faut en rester à l'application la plus stricte des paroles bibliques. On les appelle fondamentalistes, mais c'est à tort, comme le souligne le pasteur Jean Dumas, parce que tout chrétien conséquent se réclame aussi du fondement de sa foi à partir du texte. Il vaudrait mieux les définir comme étant des littéralistes. Et si dans la foi qui est la nôtre, nous suivons plus particulièrement un homme, à savoir Jésus de Nazareth, nous n'adhérons pas à une idéologie ni même à une idole. Nous ne tentons pas de le suivre à la lettre, ce qui serait totalement impossible, mais nous essayons d'être en communion avec son esprit. Et être dans cette communion, c'est rejoindre l'esprit dans lequel cet homme, Jésus de Nazareth, a travaillé. Il y a donc des compréhensions diverses et variées du message biblique. Et à chacun, chacune de nous, de les interpréter en rapport à la vie qui est la nôtre actuellement. Au fond, c'est ce que Jésus a fait pendant son ministère en Galilée. Il a toujours mis en garde ses contemporains contre une lecture littérale des Écritures. Et Jésus a interprété les Écritures qu'il connaissait selon sa propre foi en Dieu, à laquelle il a obéi jusqu'au bout, sans renier l'ouverture de l'interprétation qu'il a faite des Écritures, se mettant d'ailleurs à dos les gardiens de la loi. Chaque fois que la situation posait un problème de compréhension, Jésus a fait appel au souffle pour vivifier la lettre. Il a fait appel à la respiration intérieure pour que la prière soit celle du cœur et non celle d'une répétition rituelle. Il a fait appel à l'esprit qui rend la loi plus juste en l'adaptant. Et aussi ce qui rend le principe moral acceptable en atténuant sa rigidité. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons comprendre ces paroles de l'apôtre Paul comme un élan que donne le souffle, l'esprit. Alors, fort de ce souffle, il est évidemment difficile de définir ce qu'est un chrétien. Sinon, pour reprendre les mots de Raphaël Picon dans son éditorial d'avril 2009 dans Évangile et Liberté, je cite, « Être chrétien, c'est être libre, inspiré par l'Évangile du Christ, celui de l'insurrection, de la vie contre la mort, de la libération contre toutes les aliénations, qu'elles soient religieuses, politiques, économiques, culturelles. Cette liberté naît de se savoir reconnu et autorisé dans l'existence. Tel que je suis, humainement, et tel que je suis avec Dieu. C'est-à-dire continuellement recréé par lui, attiré par lui vers une existence plus épanouie et en lutte pour un monde plus accompli. Être chrétien, c'est forcément associer l'Évangile à la liberté. Un Évangile sans liberté serait une loi tyrannique. Une liberté sans Évangile risquerait d'être sans amour. Ce christianisme préfère les questions ouvertes, celles qui rappellent que la vérité est toujours objet de recherche, de préférence aux réponses définitives qui contrarient la pensée. Ce christianisme-là n'a de cesse de rappeler que le Christ est l'utopie réalisée d'un être nouveau, libre et aimé. » Fin de citation. C'est ainsi que nous avons entendu l'extrait de l'Évangile de Jean tout à l'heure, en parallèle de la lettre de Paul. Les disciples ont fait leur rencontre avec le Christ vivant. Quand Jésus revient au milieu d'eux, c'était pour continuer ce qu'il avait commencé avec eux avant. Sa présence à leur côté est pour leur dire que maintenant, il va falloir aller plus loin et sans lui. Parce qu'à partir de maintenant, plus rien ne peut arrêter Jésus de leur donner son souffle, ni les remords, ni la lâcheté, ni la honte, ni la culpabilité, ni la trahison, ni le reniement, ni la peur de ses disciples, ni même les verrous des portes. Au fond, rien ne peut l'empêcher de continuer ce pourquoi il est venu, apporter encore et toujours la paix, le pardon et la lumière dans toutes les nuits des hommes. La réconciliation de ce qui peut séparer, et par-dessus tout, la vie, sa vie, qu'il donne et qu'il continue de donner comme un fleuve d'eau vive, pour que tous aient sa vie en abondance. Sa vie est plus forte que n'importe quelle mort, n'importe quel enfermement, n'importe quelle rupture. Et c'est cela que ce récit raconte. L'Écriture se réalise dans le récit de l'Évangile de Jean, la parole s'accomplit. Et Jésus, au milieu de ses disciples, n'est pas là pour leur faire des reproches ou les punir. Peut-être qu'ils y ont pensé un instant, coincés qu'ils étaient dans une notion ancienne d'un Dieu qui châtie. Mais là, ils sont en présence d'une grande nouveauté. En les saluant avec cette parole de paix, Jésus les touche exactement là où ils en ont besoin. Ce shalom, qui est la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, dira plus tard l'apôtre Paul, fait son passage sur les disciples. C'est bien leur Pâque à eux. Et cette paix passe au-dessus des fautes, des culpabilités, des formes de condamnation. D'ailleurs, l'évangéliste Jean écrira plus tard dans une de ses lettres, « Là où notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. » Alors Jésus souffle sur ses disciples. Il descend en eux, il dépose en eux son souffle nouveau. Il dépose son esprit, le paraclet, mais aussi le consolateur. Il souffle sur eux pour les transformer, les pacifier de l'intérieur et pour les rendre disponibles à un avenir nouveau. Il est en train de faire d'eux des hommes nouveaux. Ce souffle rappelle le souffle de Dieu dans les narines d'Adam et Ève pour qu'ils prennent vie. Ici, c'est bien d'une vie nouvelle qu'il s'agit, qui ouvre sur un avenir et une espérance. Et cet avenir et cette espérance viennent jusqu'à nous aujourd'hui. Jésus avait promis qu'il n'abandonnerait pas ses disciples. Il tient sa promesse en venant au milieu d'eux. Avec ce souffle, il fait d'eux des apôtres, autrement dit des envoyés, des personnes envoyées ailleurs pour continuer la mission. Ce souffle sur eux sera leur nouvelle force, leur nouveau moteur. Il leur donnera un élan dont nous sommes aujourd'hui les bénéficiaires, que nous aussi, nous sommes appelés à transmettre. Cette transmission se fait bien au-delà du texte, un texte que, d'ailleurs, Jésus n'a jamais écrit, et qui est passé à la postérité par le canal de la foi, d'une part, et de l'interprétation, d'autre part, des disciples devenus apôtres et témoins de leur temps. Eux-mêmes ont été d'abord au bénéfice de ce souffle qui leur a donné la vie. Et pour que cette vie spirituelle arrive jusqu'à nous, c'est qu'ils ont eu le courage et l'audace de s'éloigner de la lettre du texte qui aurait fini par les tuer tous. Mais c'est bien à la vie que le Dieu de Jésus-Christ nous appelle. Amen. dans le recueil Louange et prière. Je vous invite maintenant à prendre le numéro 171. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Je passe la parole maintenant à Aurore Sagliotebo, présidente du Conseil presbytéral.
Merci, Madame Agnès Adeline Schaeffer, pasteur de l'Oratoire du Louvre. Un immense merci à trois. 6 prédications en 8 jours. Vraiment un grand merci parce que nous avons le culte dominical, mais également nombre de cérémonies, des mariages qui ont été prévus depuis longtemps, mais en revanche des cultes d'action de grâce. Et nous sommes, j'allais dire, à l'Oratoire du Louvre de permanence, parce que beaucoup de paroisses ferment, vous savez, l'été, et du coup, nos pasteurs gèrent et accueillent, surtout accueillent. Moi, je gère un peu, toi, tu accueilles, le conseil gère. Voilà. Donc, tu pars en vacances.
Oui.
Béatrice Cléromazier revient de vacances. Donc, ce jeudi, à l'heure du déjeuner, pause spirituelle qui sera animée par la pasteur Béatrice Cléromazier. Également, dimanche prochain, culte avec la pasteur Béatrice Cléromazier. Et nous prendrons un verre de l'amitié pour lui souhaiter un bon retour de vacances. Et nous le prendrons ou dans le jardin ou dans la grande sacristie, dont vous voyez que l'issue est condamnée. Parce que nous avons des travaux actuellement, des travaux de réparation d'une de nos coursives, dont le sol s'est mis à bomber, ce qui, en termes d'issue de secours, n'est pas forcément adéquat. Et également, nous sommes en train de lancer un travail de restauration de notre grande sacristie, et la ville de Paris est en train de faire une pré-étude, avec des tests toute la semaine, sur les boiseries, sur les murs, sur les peintures, pour voir ce qui serait approprié de faire, pour garder ce que nous avons classé il y a maintenant un peu plus de 2 ans, qui est en fait toute l'histoire du consistoire de Paris, puisque l'oratoire du Louvre était à la tête du consistoire de Paris et représentait le consistoire de Paris, et ce banc des conseillers était en fait celui au départ du consistoire de Paris. Donc voilà pour la petite histoire du jour. Également, que vous dire, immense merci d'être là. Nous sommes finalement assez nombreux pour un dimanche 16 juillet. Également, merci à ceux qui viennent de très loin, notamment du Canada. Ce matin, j'ai pu discuter avec quelqu'un du Canada et des autres paroisses qui commencent à fermer, puisque nous allons avoir nos paroissiens de l'été. Nous avons notamment un représentant de Port-Royal ce matin. Voilà. Donc vraiment un grand merci à vous. Nous restons ouverts tout l'été, y compris la librairie qui est gérée par Vito qui vous attend. Vraiment, prenez des ouvrages pour cet été, offrez-les. Il ne s'agit que d'ouvrages de protestantisme libéral. Et comme vous l'avez compris, c'est important d'avoir l'esprit en tête et prendre un peu de recul sur la lettre. Mais ça n'empêche pas de lire.
Voilà.
Merci à tous. Bon dimanche. C'est le moment de l'offrande. Donc ici, c'est le don joyeux. Pratiquez-le et vous comprendrez la joie de donner. Et vous pouvez même donner en carte bleue, puisque nous avons ce que nous appelons un panier digital, et également en ligne pour tous ceux qui sont restés au lit ce matin ou qui sont en train d'essayer d'avoir un peu de frais. Ici, il fait frais. C'est agréable aussi, en temps de canicule. Merci beaucoup et bon dimanche. Et bonnes vacances, Agnès.
Merci. Avant de nous unir dans la prière d'intercession, j'aimerais simplement remercier tous les organistes qui se relaient à la tribune, que ce soit pour les cultes, pour les actes pastoraux, les mariages, les enterrements, vraiment avec une grande dextérité, une grande écoute musicale. Et tout particulièrement aujourd'hui, merci Alexandre. Prions ensemble. Éternel Dieu de la vie, nous voici tels que nous sommes. Et nous te présentons maintenant la vérité de nos vies personnelles. Apprends-nous au travers de ce que nous vivons à discerner ton esprit dans le souffle qui nous pousse à croire, à espérer, à aimer encore et malgré tout. Apprends-nous à nous contenter de discerner ton esprit dans la respiration difficile de ton Église essoufflée, qui pourtant t'aime et te sert encore et encore. Apprends-nous à entendre ton souffle dans les petits événements sans que nous ne désespérions jamais d'en voir de grands. Alors, Dieu de la vie, nous remettons à ta grâce et à ton amour la semaine qui s'ouvre aujourd'hui, avec d'abord cette journée de repos, la rencontre avec notre famille, avec nos amis, et la rencontre de nouvelles personnes par ce culte que nous partageons. Et déjà, nous voulons remettre entre tes mains les jours prochains, chargés de travail et d'engagements divers, même en cette période estivale, pour que tu puisses guider nos échanges et assurer de ta bienveillance les regards que nous portons sur nos expériences et aussi sur les événements du monde. Éclaire-nous, soutiens notre démarche pour écarter nos craintes et nous permettre d'avancer et de découvrir d'autres façons de te servir. Bénis l'ensemble de nos relations fraternelles, qu'elles soient en tout temps le signe de la communion de ton Église au témoignage de l'Évangile et au service de notre prochain. Nous te confions celles et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous pour ce temps de culte, quelle qu'en soit la raison. Garde-les dans ta présence aimante. Nous te présentons celles et ceux qui traversent une période de deuil. Garde-les dans ta paix. Nous te confions encore celles et ceux qui demandent le secours de notre prière et que nous te nommons dans le profond de nos cœurs. Nous te présentons encore celles et ceux qui, de par le monde, proclament ta parole au risque de leur vie. Et nous te le demandons chacun à notre manière, soit avec toute l'Église, l'Église universelle, visible et invisible, et en particulier auprès de celles et ceux qui souffrent des conflits et de la guerre, et permet que nous sachions leur témoigner notre solidarité et notre amour qui vient du tien. en communion avec tous les frères et sœurs chrétiens, mais aussi en communion avec tous les frères et sœurs en humanité et celles et ceux qui vivent leur foi autrement que nous, nous te disons maintenant cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est ce que nous pouvons sentir comme une force et une joie, comme une réponse et une lumière, comme une présence apaisante. Dans nos temps de lassitude et de découragement, il est ce qui nous pousse à reprendre comme malgré nous les mêmes combats. Et il est cette volonté d'aimer encore. Et ce malgré, c'est le souffle, avec tout son élan pour chacun d'entre nous. Alors, mon frère, ma sœur, mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne la paix. Amen. Je vous souhaite un très beau dimanche.